Chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait son tel pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
S'il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et on se retrouve sur Radio Grand Air pour notre nouvelle séquence cinéma de la semaine Entracte, émission présentée par notre ami Pascal, qui a beaucoup de fiches, comme chaque semaine, dans ses mains.
C'est un joyeux bazar.
Voilà, on se retrouve pour notre nouvelle séance cinéma avec Artek et La Brèche, votre cinéma en pays foyen, une sélection de quelques rendez-vous. Bonjour Pascal.
Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 71 d'Entracte.
Et on va évoquer cette semaine 5 rendez-vous, parmi bien sûr une sélection de la semaine à La Brèche. Alors le sommaire de ce nouveau rendez-vous, Pascal ?
Alors j'ai sélectionné, on va dire en tout, 4 films. Il y en a un cinquième qu'on ne joue pas encore, mais c'est le film qui a été primé à Cannes, Anatomie d'une chute.
Exactement.
Voilà, je l'ai rajouté, si les gens veulent venir le découvrir, voilà, je leur fais une fiche pour les éclairer un peu plus. Hein. Donc on va parler de L'Île Rouge, la dernière création de Robin Campillo. On va aussi parler du dernier Spider-Man, film d'animation. C'est pas un film là.
C'est
un film d'animation. Hein. Donc de Joaquim Dos Santos, de Ken Powers et Justin Thompson. On va parler aussi de L'Exorciste du Vatican.
On va frissonner.
Voilà un drôle de sujet. Voilà un film qui sera interdit au moins de 12 ans. Hein. Alors évidemment, c'est un film d'épouvante, d'horreur, mais c'est surtout un biopic sur un homme qui a existé.
D'accord.
Oui. On va parler du père Gabriel Amors. J'ai fait une petite fiche aussi sur sa vie.
Très bien.
Pour éclairer. Hein, parce que effectivement, on voit Russell Crowe dans les films d'horreur et pourtant, il n'a pas l'habitude de tourner là-dedans. Enfin, pas d'horreur, on va dire d'épouvante. Hein.
Oui.
Donc il s'essaye au nouveau genre. C'est pas un film dans la pure lignée des films d'épouvante. Hein. Ça parle vraiment d'un personnage du Vatican, un prêtre exorciste du Vatican. On va parler aussi de Love Life, un film japonais de Koji Fukada, qu'on va passer à La Brèche et ça sera dans le cadre du Festival Hanabi. Alors on va en parler un peu plus du Festival Hanabi dans la mesure où mais j'ai mis toutes les petites fiches de films qui sont là parce qu'il y en a quand même plusieurs. Hein. Et on va parler aussi, alors j'ai pas de personnage de la semaine cette semaine. On va parler du Festival de Cannes, on va en dire un petit mot quand même.
Ah oui, c'est important.
J'ai rassemblé quelques petites fiches là-dessus, sur des films qui ont été primés, et on va en parler un peu plus.
Il y a pas mal d'acteurs et d'actrices qui ont été présents à ce Festival de Cannes, polémique ou pas
tu sais, c'est toujours une tribune où effectivement, oui, les gens ont envie de s'exprimer, et puis après, c'est une cérémonie, mais surtout celle de clôture hein, qui est assez suivie, donc évidemment, les gens qui veulent faire passer des messages, c'est vrai que c'est le moment ou jamais.
Exactement. Eh bien, c'est noté, Pascal, pour cette nouvelle semaine sur Radio Grand Air. Entracte, on commence avec L'Île Rouge, parmi la première section de cette semaine.
Voilà, L'Île Rouge, c'est un film franco-belge d'une heure 57. C'est un drame de Robin Campillo. Alors, Robin Campillo, il faut savoir une chose, qu'il a eu le César du meilleur film français en 2017 avec 120 battements par minute.
Ah oui, exact. Ouais.
Voilà, c'est un film qui a pratiquement tout raflé, il a eu 12 prix, 21 nominations. Et oui, c'est beaucoup.
21.
C'est beaucoup, oui, c'est pour ça que je te dis qu'il a raflé pas mal de récompenses. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Nadia Teres-Kieviez, Kim Gutiérrez, Charlie Vozel, Amélie Rakotoari-Malala, j'espère que je l'ai pas écorcher son nom, mais c'est bien ça. Hugues de la Marlière, Sophie Guillemin, David Scriro et Luna Carpio. Alors le pitch, il est tout simple, c'est début des années 70, sur une base de l'armée française à Madagascar, les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme.
Ouais.
Voilà, alors, j'ai pas trouvé d'infos sur ce film-là, c'est, je trouve ça assez, assez curieux, quoi. D'habitude j'arrive à trouver des fiches sur ce film-là, et là j'ai pas trouvé, je suis vraiment désolé pour vous.
Si vous avez des infos, n'hésitez pas à appeler Pascal. Hein.
Donc voilà, donc oui, ça parle de l'île de Madagascar, oui, du temps où il y avait des bases françaises, un petit peu comme à Djibouti,
ouais.
Actuellement, quoi. Voilà, jusqu'au moment où ils ont acquéri, on va dire, leur indépendance, et puis ils ont voulu aussi mener leur vie sans la tutelle de l'armée française. Donc ça sera un film à découvrir à la Brèche cette semaine.
Et donc, Pascal,
l'île rouge.
Voilà, on va découvrir ensemble la bonne annonce et on se retrouve juste après.
Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit au monde, le lieu de tous les plaisirs.
Vous allez être comme dans un cocon familial, plein d'amour et de bienveillance.
Bienvenue sur la base 180.
Bienvenue
à Madagascar.
Merci, santé.
Tu te maquilles trop. Pour qui tu te maquilles comme ça?
Arrête un peu. Moi, j'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours l'œil qui traîne. Tu me regardes dans des moments où on se croit seul, ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé.
Je pensais pas qu'il oserait venir avec elle.
Voilà, l'île rouge à découvrir cette semaine, embarquement immédiat à Madagascar. Alors pourquoi on dit l'île rouge, Pascal, sais-tu ?
L'île rouge, non, ça par contre je n'ai pas, non.
C'est peut-être parce qu'il y a du homard là-bas, non, c'est pas, non,
ça
n'a rien à voir.
Non, ça m'étonnerait. Et, non, j'ai pas l'explication là par contre.
Ouais. Alors c'est vrai que le Madagascar, c'est...
Ça a changé, une colonie depuis, française, hein. Oui, ouais. depuis les on va dire les années 1800, fin 1800, oui, je sais qu'il a été, on va dire, pacifié à grands coups de canons et de cavalerie par je crois que c'était le général Lyoté, mm-hmm. à l'époque, et voilà, qui était là pour déstabiliser, c'était un royaume, Madagascar, c'était dirigé, je crois, à la fin du 19e siècle, il me semble que c'était une femme, une ukrainienne qui régnait un petit peu sur un royaume, sur l'île,
ouais.
Et donc l'armée française a vraiment œuvré pour détricoter tous ces tissus-là, et puis ensuite l'histoire a fait son œuvre, quoi.
Ouais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le pays, enfin c'est un pays pauvre. Hein.
Malgré qu'ils avaient
des richesses. Hein.
Ils avaient des richesses, oui, mais je pense que.
Je crois les minerais, puis
ils ont toujours. Oui.
Je crois la vanille aussi, enfin la culture de la vanille,
oui.
Et puis.
Mais c'est un pays, un des pays les plus pauvres d'Afrique. Hein. C'est vrai que c'est assez dramatique. Hein. J'ai vu un documentaire il n'y a pas très longtemps dessus, et c'est vrai que c'est assez saisissant, voir le degré de pauvreté où les gens ont du mal à avoir l'accès aux soins, à l'éducation, tout ça. Donc c'est assez dramatique. Oui.
Alors quand on regarde un petit peu les premières images de ce film, c'est assez étonnant comment ça a été tourné. C'est beaucoup de couleurs, c'est assez bleuté, comme si ça avait été peint en fait. On voit une couleur un petit peu particulière de ce film. Alors je ne sais pas, pour le spécialiste que tu es, comment ça a été filmé, comment ça a été tourné. Mais c'est vrai que ce film est assez étonnant quand on voit les premières images. Alors, tout en discutant, je te montre un petit peu les couleurs,
oui,
couleurs très vives. Et c'est, voilà, d'entrée, on est projeté sur l'époque. Hein.
Et bien c'est une immersion dans les années 70. Hein, peut-être que le réalisateur a voulu coller un petit peu à la colorimétrie de l'époque.
Ah, c'est joli. Hein, c'est...
Oui, ça a l'air sympa. Ouais. Donc ça sera à découvrir donc, à la Brèche cette semaine. Donc L'Île Rouge. Hein.
Voilà, une production française, on le rappelle.
Une production française.
Allez, on revient à des choses pour les fans, bien sûr, on en connaît. Film d'animation cette fois-ci, Spider-Man.
Oui, le énième Spider-Man. Et donc, c'est un film américain donc de 2h16. Hein, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc, c'est un film donc américain de 2h16, animation action fantastique hein, de Joaquin Dos Santos. Là, ils sont plusieurs à l'avoir réalisé. Hein, Kemp Powers et Justin Thompson. Donc, après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le multiverse où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d'en protéger l'existence. Alors, le multiverse, ce sont des univers parallèles.
Ah, d'accord. Voilà. Merci pour l'éclairage.
Voilà. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. Donc pour les fans donc de Spider-Man, donc le dernier film de Joaquin Dos Santos, Kemper Powers et Justin Thompson, donc ça sera donc à découvrir à la Brèche donc cette semaine.
Voilà. Est-ce qu'on aura les mêmes fans que ceux qui viennent voir le film ou c'est un public différent, c'est pas?
Là c'est quand même assez difficile parce que ça serait les mêmes fans, oui, c'est vraiment ça avait été un film. Là, ouais. C'est vraiment un film d'animation, donc peut-être s'adresse-t-il peut-être aux plus petits. Peut-être,
oui.
Peut-être. Après, je suis pas franchement un grand spécialiste de tous ces personnages-là, je dois l'avouer.
On interrogera le public, on ne sait jamais, hein, à l'issue des séances. On va parler maintenant de notre rendez-vous. C'est un rendez-vous sérieux, qui peut être effectivement controversé dans l'approche en fait, dans l'écriture et surtout dans la vision de ce film, L'Exorciste du Vatican. Ouais. On y croit, on n'y croit pas.
Alors on y croit pas, oui, mais c'est vrai que c'est un drôle de sujet.
C'est un peu tabou. Hein, non, ouais, ça n'a pas été tabou, ça, à un moment donné.
Non, l'exorcisme, c'est vraiment, il y a une cellule spéciale au Vatican avec c'est l'histoire du prêtre, c'est Gabriel Amorce qui lui a œuvré, déjà lui a été initié, formé par son prédécesseur, il hérite un petit peu de la cellule de l'exorcisme, mais c'est quand même assez impressionnant. Alors moi j'ai quand même fait une fiche sur le père Gabriel Amorce parce que c'est quand même une drôle de profession. Alors après, c'est vrai qu'on y croit, on n'y croit pas, mais quand j'ai fait l'affiche et tout, je suis tombé un petit peu sur ses dires, et il disait qu'en fait, oui, il en a fait des milliers, des dizaines de milliers d'exorcismes, et il disait que là-dedans, il y avait beaucoup aussi de gens qui étaient... C'est pour ça qu'il fait bien la part des choses, et il parle de personnes qui n'étaient pas bien psychiquement, et qui certains avaient des maladies mentales. Donc, pour lui, le mal s'est glissé dans très très peu il y en a quand même beaucoup, mais dans très très peu d'individus, quoi.
Ouais.
Donc oui, parce que ce sont apparemment des gens qui se disent habités par le mal et le diable. Donc et là, c'est on est allé chercher Russell Crowe qui lui à la base n'aime pas les films d'épouvante et d'horreur. Non, d'accord. Il dit que ça l'empêche de dormir.
Ah ben là, donc, c'est réussi.
Non, il l'a foutu dans le bain direct. c'est un biopic. Hein. Effectivement, on pense toujours au film L'Exorciste. Alors, il en parlait, le père Gabriel Amorce, du film L'Exorciste. Et il dit que c'est un très bon film. Même si tout ce qu'il y a dedans ne colle pas forcément lui, à la réalité qu'il a vécue. Mais dans l'ensemble, ça y ressemble quand même. C'est pas mal. C'est pour ça qu'il dit que c'est quand même un film assez réussi. Quoi. Mm-hmm. L'Exorciste du Vatican, oui, c'est un film de Julius Avery, donc un film américain d'1h43, épouvante, horreur, biopic, fantastique, interdit aux moins de 12 ans.
Alors, on comprend pourquoi. Hein.
Ouais, c'est vrai que ça peut déranger, et puis c'est quand même assez étrange comme sujet, le diable peut-il habiter
on connaissait
des êtres
déjà...
humains et faire le mal sur Terre, ouais. Voilà, c'est ça le truc. Ouais,
on connaissait déjà le film L'Exorciste, hein, qui était sorti il y a de nombreuses années.
Oui, qui avait très bien marché d'ailleurs.
Avec De Niro, non, c'était pas De Niro.
Non, c'était pas De Niro, je me rappelais plus des acteurs, quoi, mais c'était... tout le monde s'en souvient de ce film-là.
Ah, déjà à l'époque.
Tout le monde s'en souvient.
Tout le monde tremblait.
Ouais, tu passais un sale moment, mine de rien. En plus t'avances dans le film, plus ça s'aggrave. Puis tu vois le prêtre aussi qui est là. Alors, qui est là avec son assistant.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens.
Ah, je ne me rappelle plus trop, non.
Il est là avec son assistant qui est beaucoup plus jeune. En fait, il le forme.
D'accord. Ouais.
Il le forme. Alors, au niveau des acteurs, évidemment, on va retrouver Russell Crowe, Daniel Zovato, Alex Essoé, Franco Nero, Peter de Souza, Feyoné, donc Laurel Martsen, Cornel John et Ryan O'Grady. Donc, inspiré des véritables archives du père Gabriel Amorth, l'exorciste en chef, donc qui est l'exorciste en chef du Vatican, hein, le père Gabriel Amorth.
Ah oui, d'accord. Oui. Il a vraiment le. On va dire.
Il fait autorité.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est quelqu'un qu'on consulte, hein, vraiment. Mm-hmm. Donc, il enquête donc, suite à la terrifiante découverte d'un jeune garçon possédé. Ces investigations le mèneront à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l'oubli. Alors oui, évidemment, ce sont des choses très occultes. Et puis, moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que c'est un, vous savez, ça dépasse un petit peu l'entendement quand même. On parle du ce qu'on peut appeler vulgairement, on va dire, le surnaturel. Alors, voyons mes petites fiches. Donc, le film coécrit par Michael Petroni et Evan Spiliotopoulos est basé sur des faits présentés comme réels. Plus précisément, l'exorcisme du Vatican est inspiré des véritables archives du père Gabriel Amorth, exorciste en chef du Vatican. Surnommé par certains comme le doyen des exorcistes, par d'autres comme l'exorciste du Vatican, le père Gabriel Amorth a effectué d'innombrables exorcismes au nom de l'Église et s'est révélé un combattant acharné contre les forces du mal. Il a retracé ses exploits dans deux ouvrages autobiographiques qui ne se contentent pas de consigner des anecdotes terrifiantes, mais qui explorent les menaces qui font planer les démons sur l'humanité. C'est pour ça que je te dis, c'est un drôle de sujet. Et son interprète, Russell Crowe, explique. Le père Gabriel Amorth a bel et bien existé. Il a occupé cette fonction pendant 36 ans. Il a participé à des dizaines de milliers d'exorcismes. Sans aucun doute, c'est un homme profondément pieux, mais aussi quelqu'un d'extrêmement indépendant. Donc, comme je le disais, Russell Crowe n'aime pas les films d'horreur. Et avec l'exorcisme du Vatican, donc Russell Crowe tient pour la première fois le rôle principal d'un film d'horreur. Donc, et l'acteur de 59 ans explique « C'est un genre que je n'avais jamais exploré. Pour être honnête, je n'aime pas trop les films d'horreur, ils m'empêchent de dormir. Je suis incroyablement superstitieux. » Pour te dire qu'il était bien tombé. « Tourner en rond comme le fait le personnage pour affronter les situations auxquelles il doit faire face » ne m'aimait pas franchement à l'aise. Certes, alors écoute bien, là, c'est quand même assez intéressant. Certes, il s'est produit des phénomènes inhabituels autour de nous, mais on prend un peu de recul et on considère qu'il s'agit de coïncidences, sinon on finit par devenir fou.
Ah oui, d'accord.
Tu vois le truc. Donc dans le film, Amorth est un homme aux solides convictions religieuses et un enquêteur acharné. Tandis qu'il affronte l'un des démons les plus puissants de sa longue carrière, le prêtre découvre la vérité autour d'un secret enfoui depuis des siècles, et révèle un complot de bien plus grande ampleur, malgré les avertissements du Vatican. Russell Crowe confie donc, sans aucun doute, c'est un homme profondément pieux, mais aussi quelqu'un d'extrêmement indépendant. Il est résolu à se montrer ouvert et franc, il n'a pas peur des failles humaines, il accepte toutes les manies et excentricités des gens. Pardon. C'est cette sincérité à la fois simple et intuitive qui lui permet de faire son boulot. Donc les deux ouvrages donc, du père Amorth, qui s'intitule « Un exorciste raconte » et « Les nouveaux récits d'un exorciste » ont été des best-sellers. C'est vrai que ça peut paraître passionnant aussi. Un prêtre qui raconte un petit peu son vécu, le vécu de l'horreur, entre parenthèses, hein, parce qu'il affronte des gens, il est en face de personnes qui ne parlent pas ou quasiment pas. Quoi.
Oui, qui sont envahis possédés par le diable.
Donc le producteur Michael Patrick Kaczmarek a réussi à en acquérir les droits d'adaptation avant la disparition de l'homme d'église en 2016. Il est disparu il n'y a pas très longtemps. Hein. Et comme il nous dit, au cours de nos échanges, j'ai su le convaincre que s'il prenait le risque de travailler avec moi, je ferais en sorte de préserver les valeurs catholiques de son œuvre et de respecter son intégrité, l'église et son ordre religieux. Ces ouvrages sont une mine qui renferme des centaines d'intrigues, d'anecdotes, d'affaires réelles au cours desquelles le père Amorth a exorcisé des démons. Le nombre d'histoires que nous pouvions raconter était sans limite. Avec mes producteurs partenaires, on s'est toujours dit que ce personnage était le James Bond des exorcistes. Il y avait un vaste ensemble de récits, issus donc des deux ouvrages dans lesquels on pouvait puiser et qui allaient dans le sens de notre vision du film. Donc lorsque le père Gabriel Amorth est décédé en 2016 à l'âge de 91 ans, hein, comme quoi le diable ne l'a pas trop usé, je crois que c'est lui qui a usé le diable.
C'est vraiment de l'énergie hein, qu'on peut développer hein, face à ces entités.
Donc un deuil national a été décrété en Italie. Et parce que là-bas la religion ça rigole pas. Hein.
Et c'est un don, enfin on a des dons.
Je crois qu'il faut avoir beaucoup de volonté, je crois. Ouais. Je crois. Donc lorsque le père, il était un iconoclaste, un intellectuel libre penseur et un homme courageux qui a consacré sa vie entière à tenter de venir en aide aux gens en souffrance. Donc en amont du tournage, Russell Crowe s'est plongé dans les recherches, réunissant toute la documentation possible sur Amorce afin de comprendre le parcours du prêtre et ses motivations. Il s'est rendu à Rome où il a passé une semaine à rencontrer des membres du Vatican qui ont connu l'exorciste. Malgré toutes les rumeurs autour d'une institution attachée au culte du secret, l'acteur indique « Je dois dire que l'Église s'est montrée très ouverte. Les responsables du Vatican nous ont accordé quelques privilèges insensés. » Il n'explique pas lesquels.
Ah oui, tu m'étonnes.
Dans le film, le père Gabriel Amorce a pour mission de chasser la créature démoniaque qui s'est emparée d'un petit garçon nommé Henry. Pour le rôle, la production a engagé Peter de Souza Feigonet, âgé de 12 ans. Le producteur Doug Belgrade se souvient. Pendant l'audition, il a imité la voix du pape, mêlant des dialectes allemands et italiens avant de pousser les grognements inquiétants d'un démon. On ne s'attendait pas à ce que Peter ait mis au point une voix démoniaque. Il a surpassé nos attentes sur toute la ligne. Mais c'est vrai que certaines personnes possédées, dit-on, parlent des latins, des vieilles langues,
ah oui.
Des choses qui ne sont pas censées user en temps normal. Quoi. Uh-huh. Ça s'est arrivé vraiment plusieurs fois. Donc, pour les extérieurs de l'abbaye de Saint-Sébastien, Julius Avery avait défini quelques critères. Le bâtiment devait se situer sur des hauteurs et être accessible par une route moderne pour la scène où Julia et ses enfants arrivent en voiture et plus tard, celle où le père Amorce débarque sur son scooter Lambretta. Ah, c'est la gueule quand même. Après des recherches en Irlande, la production a opté pour un château abandonné à Limerick. Le régisseur d'extérieur, Éowyn O'Loan, explique « C'était une structure d'architecture gothique nichée au fin fond des bois. Il y avait une construction située sur des hauteurs, un horizon dégagé au loin et une route à proximité. » La production a filmé les intérieurs de l'abbaye sur les plateaux des studios Ardmore près de Dublin. Le chef décorateur, Alan Gilmore, a conçu le plan en s'inspirant des vitraux de la cathédrale Christ Church de Dublin, en y intégrant des références démoniaques à l'instar de pentagrammes jouxtant l'iconographie. Donc tu vois, il y a quand même tout un boulot qui a été fait tout autour. Et moi, je trouve franchement, je trouve que c'est bien d'avoir fait un biopic et non un film basé sur des faits qui ont existé. Quoi. C'est, on rentre vraiment dans la vie du sujet. Il parle vraiment de la vie de ce père. Alors je vous ai fait quand même une petite fiche, juste pour se rendre compte un petit peu du personnage, parce que c'est quand même, j'allais dire, une activité. Alors c'est pas un métier, je crois que c'est une vocation, faut pour affronter des choses pareilles. Et puis, en plus, il a vécu longtemps. C'est marrant, parce que comment peut-on se reposer en paix quand tu as passé, on va dire, des journées entières à affronter des gens qui étaient censés être possédés, quoi. C'est quand même violent au niveau psychologique. Hein. Donc le père Gabriel Amorce, il est diplômé en droit, il entre dans la société de Saint-Paul, il reçoit l'ordination le 24 janvier 1954 à Rome des mains de Monseigneur Ilario Roata, évêque de Norcia. Conformément à son charisme de religieux, paulinien, il devient par la suite directeur de la revue Madre di Dio et collaborateur au magazine Famiglia Cristiana, fondé par le père Giacomo Alberione. Il devient dans le même temps membre de l'Académie Pontificale Mariale Internationale. Donc lui, si tu veux, ce prêtre-là, il a été formé par le père Candido Amantini. Le père Amorce est nommé exorciste du diocèse de Rome en juin 86 par le cardinal Ugo Politti. Il devient alors son assistant, à qui il succède en 90. De 86 à 2007, il effectue entre, écoute bien le chiffre, 50 000 et 70 000 exorcismes. C'est pour te dire que le diable est partout.
D'accord,
ouais. C'est énorme.
Et c'est plus dans de certains pays que d'autres ou c'est
À mon avis, je crois qu'il est un peu partout. Hein.
Ouais.
Oui, parce que c'est quand même un référent dans la matière. Hein. Donc en 2008, il affirme toutefois n'avoir rencontré de réelles possessions démoniaques qu'une centaine de fois environ, ce qui est déjà énorme.
Ouais.
L'immense majorité de ses patients étaient victimes de simples troubles démoniaques, voire de maladies mentales. Pour cette raison, il travaille très étroitement avec des psychiatres et médecins. Il est quand même épaulé par la science. Hein. Dans le même sens, il affirme que certains exorcismes prennent plusieurs heures, mais que la plupart d'entre eux ne prennent que quelques minutes. En septembre 91, le père Amorce fonde l'association italienne des exorcistes qui devient rapidement l'association internationale donc des exorcistes, sous l'influence du père René Chenesseau notamment. Il en est le président jusqu'à sa retraite en 2000, date à laquelle il devient président honoraire à vie de l'association. Les statuts de cette dernière sont approuvés par le Saint-Siège en juin 2014. dans le monde francophone après la publication de ses confessions mémoires en 2012, Don Amors se voit souvent qualifié d'exorciste officiel du Vatican ou d'exorciste en chef du Vatican, des fonctions qui n'existent pas au sein de l'Église catholique. Il est en fait simplement de 86 jusqu'à sa mort l'un des exorcistes du diocèse de Rome. Voilà, pour vous donner une petite idée de ce prêtre, hein, ce drôle de personnage, voilà, qui a décidé de vouer sa vie à combattre le mal, ouais. Le malin, mm-hmm. Les gens possédés, et affronter le diable.
Mm. Ça met des frissons. Alors aujourd'hui, ouais. Qui c'est qui a pris la relève, hein? On ne sait pas.
Je ne sais pas trop. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il a formé, à mon avis, des générations d'exorcistes, enfin, au moins plusieurs, je pense. Voilà un petit peu la drôle de vie de ce père-là. C'est pour ça que je voulais faire une petite fiche là-dessus pour vous rendre compte un petit peu, mais sur quoi repose déjà le projet du film dans lequel joue donc Russell Crowe. Ça sera un film donc à découvrir donc à la brèche cette semaine.
Voilà, et si vous allez le voir. Attendez-vous à ne pas dormir dans les prochaines heures qui vont suivre.
Oui, bon, déjà, c'est interdit au moins de 12 ans, hein, ouais. C'est un petit peu normal. Mais oui, âme sensible, s'abstenir. Hein, parce que, évidemment, nous, on a toujours en tête les scènes absolument horribles de l'exorciste, donc le film américain.
Oui, la tête qui tourne sur
lui. Voilà. Alors, c'est pour ça, lui, ça l'a fait marrer, le père Gabriel. Ça l'a fait marrer parce qu'il me dit non, ça, j'ai jamais vu. non, les têtes qui tournent à 180 degrés, non. Et heureusement.
Eh bien écoute, on va découvrir ensemble la bande-annonce et on se retrouve juste après.
D'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça ?
Père Gabriel est mort. Le soir du 4 juin, vous avez procédé à un exorcisme.
Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez ?
Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père Amort.
Si vous avez un problème avec moi, adressez-vous à mon patron, le pape.
Il y a un cas qui requiert votre attention.
Amenez-moi le prêtre.
L'enfant a-t-il subi un traumatisme ?
Il a vu son père se faire empaler.
Vous pouvez compter sur moi, Julia.
C'est pas le bon prêtre ! Que veux-tu ? Réponds-moi. Toi, je suis ton pire cauchemar. Mon cauchemar. C'est que la France soit championne du monde. Arrête de te cacher derrière tes petites blagues.
Amy, c'est papa.
C'est toi.
Vous allez tous sourire.
C'est le sceau du Vatican.
L'Église avait déjà combattu ce démon, et le Vatican a étouffé l'affaire. On t'a manipulé, et tu es tombé dans le piège. Je ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il m'a autorisé ça ?
Imaginez ce qui se passerait si l'âme de l'exorciste du pape était possédée par le diable. Qui vous défendrait ?
Ma foi n'a besoin d'aucune défense.
Voilà, à l'issue, il fallait voir un bon rebooteux parce que sinon, on a des problèmes de.
Mais ouais. Ça donne envie d'aller le voir quand même, non ?
Ah oui.
C'est un sujet intéressant. Hein. C'est quelque chose qui dépasse, on va dire, la nature humaine et tout ce qu'on peut inventer. C'est le mal absolu. Et non, moi je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, moi je serais vraiment curieux de lire les mémoires du père Gabriel.
C'est intéressant.
Oui. Donc, l'exorciste du Vatican, n'amenez pas vos enfants. Pour une fois,
laissez-les à la maison.
Voilà, laissez-les à la maison parce que je pense que ça va récurrer, je pense. Hein.
Ouais.
Donc voilà, donc à découvrir donc à la brèche le dernier film donc de Julius Avery.
Voilà, le seul petit bémol là, c'est on écoutait la bande-annonce, oui. C'est la voix de Russell Crowe. Normalement, c'est pas le même acteur qui le
Ah, c'est pas la même doubleur. Ouais. Pour la voix.
La voix est un peu entre Stallone et.
Oui, ils ont grossi la voix.
C'est ça.
Ouais. Oui, on est loin de Maximus.
Oui, exactement. Voilà, donc on enchaîne avec notre rendez-vous cette semaine à la brèche. On va revenir à des choses un petit peu plus légères. Love Life, c'est une production japonaise. On en parlait tout à l'heure en ouverture. En ce moment, beaucoup de films sont proposés à la brèche dans une opération qui s'appelle les saisons Anabi. Et bien voilà, Love Life, c'est un beau moment. Il y aura aussi une discussion pour ce rendez-vous, Pascal.
Exactement, oui. Alors, on va parler d'un film. Alors, il n'est pas entièrement japonais, il est franco-japonais.
D'accord.
Love Life, c'est un film de 2h04, c'est un drame de Koji Fukada. Alors, au niveau des acteurs, évidemment.
Évidemment, alors là, c'est toute une bon plaie,
évidemment. Alors, bon, oui. On va retrouver Fumino Kimura, Kento Nagayama, Atome Tsunada, Teter Shimada, Kanno Misuzu, Hiruna Yamazaki et Tomorovo Taguchi. Donc c'est l'histoire de Tako qui vit avec son époux Jiro et son fils Keitaka en face de chez ses beaux-parents. Tandis qu'elle découvre l'existence d'une ancienne fiancée de son mari, le père biologique de Keita, refait surface. C'est le début d'un cruel jeu de chaises musicales dont personne ne sortira indemne. Alors oui, il y aura donc le mercredi 31 mai, donc à 20h, donc ça sera le film sera projeté donc en avant-première en version originale sous-titrée, vous imaginez bien. Et il y aura une discussion dans le hall autour d'un verre avec ma collègue, donc Marjorie.
Ah oui, que l'on salue d'ailleurs.
Qui sera là, oui, que l'on salue, qui sera là donc pour parler, on va dire, du cinéma japonais et puis de ce réalisateur-là. Donc je rappelle la date, donc le mercredi 31. Donc à 20h, donc ça sera à la brèche.
Voilà, on rappelle juste, Pascal, les saisons Anabi donc se poursuivent cette semaine avec d'autres films qui sont donc diffusés en version originale. Évidemment,
ça n'a pas de sens. Mais oui, parce que c'est le but, hein, en fait, c'est faire la promo du cinéma japonais. Alors pourquoi les saisons Anabi? Parce qu'il y a une sélection pour chaque saison. Ici, c'est l'été.
Ouais.
Les saisons d'été, mais tu as printemps, automne, hiver.
D'accord.
C'est ça les saisons Anabi.
D'accord.
Donc c'est une opération à chaque fois qui refait surface assez régulièrement au changement de saison.
Très bien.
Quand va-t-on passer donc au niveau du festival Anabi?
Rendez-vous à Tokyo.
Ouais, on aura Rendez-vous à Tokyo. Donc un film de Diago Matsui d'1h55. Hein, donc il a été primé par le public au festival de Tokyo et cette romance particulièrement délicate nous a enthousiasmés, comme nous dit le journaliste, par son concept original, une histoire d'amour à rebours. Donc je vous fais le pitch vite fait, quand c'est le 26 juillet se suivent et ne se ressemblent pas. C'est le jour où ils se sont rencontrés, celui où ils se sont aimés, où ils se sont séparés. Sept rendez-vous entre un danseur professionnel et une conductrice de taxi dans le Tokyo d'aujourd'hui.
Très bien.
Donc on passera aussi La beauté du geste, toujours en version originale sous-titrée. Hein. Ce film a primé donc au Japon. L'actrice a reçu le César, l'équivalent du César japonais, donc la meilleure actrice. Et il est en sélection officielle au Festival de Berlin. Hein. Donc c'est des films qui se sont fait remarquer, quand La beauté du geste, donc de Shomiyake d'1h39. Hein. Donc c'est l'histoire de Keiko qui vit dans les faubourgs de Tokyo, où elle s'entraîne avec acharnement à la boxe. Sourde, c'est avec son cou, son corps qu'elle s'exprime. Mais au moment où sa carrière prend son envol, elle décide de tout arrêter. Donc voilà pour le film, donc La beauté du geste. Pour ce qui concerne les festivals Anabi, il n'y a qu'une date hein, pour chaque film.
Oui, c'est ce que j'ai vu.
Et oui, parce que ça fait parce que sinon,
principalement vers 18h à peu près, hein, dans la semaine.
Alors il y a des. Il y a certains films à 18h, un à 20h30. Hein.
Ouais.
On va parler aussi du dernier film de Kei Ishikawa, donc de 2h01, qui s'intitule A Man. Donc c'est l'histoire de Rei qui découvre que son mari disparu n'est pas celui qu'il prétendait être, et donc elle engage un avocat pour connaître la véritable identité de celui qu'elle aimait. donc le film Human, donc à découvrir donc en version originale sous-titrée. On parlera aussi on passera aussi Coming Soon, un film d'animation. Là, de Takayuki Hirao d'1h34. C'était une sélection officielle au niveau du festival de Cannes pour les écrans juniors. Donc c'est bienvenue à Nollywood, la Mecque du cinéma où Pompo est la reine des films commerciaux à succès. Le jour où elle décide de produire un film d'auteur plus personnel, elle en confie la réalisation à son assistant Jen. Lui qui en rêvait secrètement sera-t-il à la hauteur? Donc ça c'est quand même pour les petits, pour les tout petits, un film d'1h34. On va parler également aussi du film donc Comme un lundi de Ryo Takebayashi, un film d'1h23 qui est aussi une immersion dans le monde du travail. Donc c'est votre boss vous harcèle, vos collègues vous épuisent, vous ne voulez plus retourner au bureau, vous n'imaginez pas ce que traversent Yoshikawa et ses collègues. Car en plus des galères, ils sont piégés dans une boucle temporelle. C'était piégé au boulot, c'est pas de bol. qui recommence chaque lundi. Entre deux rendez-vous clients, réussiront-ils à trouver la sortie? Ça fait penser à Un jour sans fin un peu.
Ah oui, c'est vrai.
Tu vois, qui ouais. passe il n'y a pas très longtemps à la brèche déjà. On l'a passé à la brèche il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une comédie jubilatoire qui n'a rien à envier à Un jour sans fin et des nouveaux collègues qu'on aimerait ne plus quitter. Voilà un petit peu pour vous faire un tour d'horizon. J'ai oublié de vous parler de la comédie humaine,
oui,
aussi.
C'est ce que j'avais vu.
Ouais, de Koji Fukada. Hein, c'est une rencontre fortuite née d'une déception, un vernissage où personne ne vient et un nouveau membre dans la famille. Donc trois histoires s'entrecroisent et révèlent des vérités jusque-là bien enfouies. Donc un film de 2h19, ça sera le film de clôture. Donc la comédie humaine de Koji Fukada, un film de 2h19, donc à découvrir à la Brèche. Et ça sera, oui, effectivement, le dernier film de ce petit festival Hanabi qu'on aura à la Brèche cette semaine.
Voilà, et bien écoute, Pascal, merci pour cette présentation et ce programme de cette opération spéciale avec des films en avant-première, je le rappelle. On va revenir sur notre rendez-vous, Anatomie d'une chute. On en parlait, c'était bien évidemment quelque chose qui s'inscrit au Festival de Cannes. Et tu vas nous en parler un petit peu, justement.
Alors, je vais vous brosser vraiment les grandes lignes, hein, parce qu'évidemment, ouais. Donc Anatomie d'une chute, oui, c'est la Palme d'Or à Cannes. Le ouais. dernier film de Justine Trier. Donc c'est un film de 2h30, c'est un policier drame, un thriller de 2h30. Hein. Donc c'est l'histoire de Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans. Donc Daniel vit depuis un an, loin de tout, à la montagne. Et un jour Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute. Suicide ou homicide, point d'interrogation. Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Voilà un petit peu le film qui a été, on va dire, qui a reçu la Palme d'Or donc au festival, dernier festival de Cannes. Donc il a été sacré meilleur film.
Eh bien, c'est noté, on aura l'occasion, et si vous êtes curieux, d'aller le voir à la Brèche cette semaine. Alors le festival de Cannes, Pascal, on en parlait, on vient d'achever le festival de Cannes récemment. Ça a été, comme chaque année, un moment très convoité par les spécialistes de cinéma, de film, haut en couleur évidemment, avec des acteurs forcément connus qui sont venus monter les marches. Et vous aurez certainement noté la présence de Douglas et d'Harrison Ford qui ont monté,
et
Tom Hanks, qu'on n'a pas trop cité mais qui était présent.
Mais il était là, il y avait du beau monde, on va dire, ouais. qui a défilé à Cannes. On va parler du Grand Prix, parce qu'il y a quand même d'autres films. Évidemment, je pense qu'on les passera à la Brèche, hein, mais il y en a quand même qui a un sujet assez lourd, hein, c'est The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui a reçu le Grand Prix au Festival de Cannes. Ouais. Là, on va partir dans le monde de l'horreur, une période de trouble de notre histoire où l'humanité vraiment est sortie du chemin on va dire de l'entendement. Quoi. C'est l'histoire du commandant d'Auschwitz, Rudolf Hess, et sa femme, donc Hedwig, qui s'efforce de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Et c'est vrai que les dignitaires des camps de concentration vivaient juste à côté. Comme si de rien n'était, c'est quand même assez effrayant. Et je trouve que c'est bien de mettre un petit peu un coup de projecteur sur la vie de Rudolf Hess et de son action pendant le Second Conflit mondial et pendant l'Holocauste, évidemment. Donc voilà, c'est le film qui a reçu le grand prix The Zone of Interest. Au niveau du prix du jury, le prix du jury, il était décerné à un film japonais, donc Les Feuilles Mortes d'Aki... pas japonais, pardon. Les Feuilles Mortes, donc d'Aki Korismaki.
Oui.
Donc Les Feuilles Mortes, c'est, juste pour vous donner un petit peu une idée du pitch, hein, c'est deux personnes solitaires qui se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki, et chacun tente de trouver en l'autre son premier, unique et dernier amour. Le chemin vers ce but louable est obscurci par l'alcoolisme de l'homme, la perte d'un numéro de téléphone, l'ignorance... l'ignorance de leur nom et de leur adresse réciproque. La vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur. Voilà un petit peu pour vous donner une idée du film. Donc Les Feuilles Mortes de Aki Korismaki qui a reçu le prix du jury. Hein. Au niveau de la mise en scène a été sacré donc Tranan Ung pour La Passion de Dodin Bouffant. Alors c'est marrant, hein, mais c'est un film sur la gastronomie. On va retrouver Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger.
Oui, c'est vrai qu'il y avait Benoît Magimel qu'on a pu apercevoir effectivement.
Donc c'est l'histoire de Génie qui est cuisinière hors pair et qui est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. À force de passer du temps ensemble en cuisine, une passion amoureuse s'est construite entre eux, où l'amour est étroitement lié à la pratique de la gastronomie. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres, qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Cuisiner pour elle.
Oui, c'est important.
Quel bœuf d'amour. Oui, mais tu sais quoi? Non, mais c'est marrant parce que moi qui adore cuisiner et tout, un jour je suis tombé sur la page d'un livre de cuisine du 17e siècle et la première phrase était: l'amour commence à la cuisine. C'est vrai, c'est vrai que tout est là. Tout est là. Donc voilà pour vous parler du prix du jury, le prix de la mise en scène. Et le prix du scénario, ça sera pour Yuji Sakamoto pour Monster.
Ouais.
Et le prix d'interprétation féminine a été donné à Merve Dizdar pour Les Herbes Sèches de Nouri Bilge-Ceylan. Au niveau du prix d'interprétation, pour revenir sur Monster, c'est l'histoire du jeune Minato qui est de plus en plus préoccupant à son comportement. Hein. Sa mère, qui l'élève seule depuis la mort de son époux, décide de confronter l'équipe éducative de l'école de son fils. Tous semblent désigner le professeur de Minato comme responsable des problèmes rencontrés par le jeune garçon. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l'enfant, la vérité se révèle bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ. Voilà un petit peu pour vous donner le pitch de ce film-là. Alors, ce sont des films qu'on va certainement passer donc à la brèche. Hein. Au niveau de la prix d'interprétation masculine, il était décerné à Koji Yakusho pour Perfect Days de Wim Wenders.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Exact.
La palme du court-métrage a été donnée donc à Flora Anabuda pour son court-métrage qui s'intitule 27. Il y a eu aussi une mention spéciale du court-métrage pour Phare de Gunnar Martinsdottir Schluter, j'espère que je n'ai pas écorché trop son nom. Et la caméra d'or a été décernée donc à Pham Thien Anh pour le film L'arbre au papillon d'or. Voilà, qu'on attend à la brèche avec impatience, parce que moi j'aime bien aller me poser un petit peu devant les films qui ont été primés. C'est quand même assez intéressant.
Ouais. Eh bien, c'est noté pour cette belle programmation, en tout cas, du Festival de Cannes. On essaiera peut-être l'année prochaine de faire en direct depuis le Festival de Cannes.
Il va falloir que je déménage alors.
On essaiera de monter les marches de Cannes, en tout cas. Voilà. Avant de conclure l'émission, on a un petit peu de temps devant nous, Pascal. Oui. Alors on va peut-être rappeler les opérations Cinété. Cinété qui continue et on va pouvoir voir des belles choses, hein, notamment pour ces opérations Cinété.
Alors Cinété, oui, c'est une opération qui a été créée pour faire venir les gens des EHPAD.
Oui.
Voilà, on leur fait le thé ou un café avec des gâteaux et on les accueille dans le hall du cinéma et puis ils vont découvrir le film de leur choix. C'est-à-dire qu'on leur propose trois films et ils choisissent. Et ils passent une partie de l'après-midi ici. Alors ce qui est bien, c'est souvent le lundi après-midi vers le coup des 15h. Donc effectivement, ce ne sont pas des séances qui sont super fréquentées. Mais c'est quelque part, c'est voulu parce que justement, le hall, il est calme. Et puis des fois, tu sais qu'on les reçoit, on est obligé de les faire asseoir. Des fois, ils sont quand même pas mal. Hein, donc il nous faut de l'espace. Il vaut mieux un hall de cinéma calme plutôt que des gens qui virevoltent tout autour, du bruit, tout ça, c'est pas très très reposant pour eux, quoi. Donc oui, effectivement, Cinété, c'est ça, c'est un tarif réduit pour tous les résidents, on va dire des EHPAD, et tous ceux qui veulent venir découvrir un film tranquillement le lundi après-midi, à la Brèche.
Alors parmi les rendez-vous de ces séances cinétées, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ?
Alors déjà, l'opération du lundi 5 mai, on pourra découvrir donc Jeanne Dubarry.
Oui, très bien.
Oui,
alors on a un petit recul là, sur le film, apparemment ça marche pas trop mal.
Jeanne Dubarry a très très bien marché, hein. c'est quand même assez étonnant. Hein. Et dit tant mieux, parce que des fois c'est des surprises comme ça. Moi j'avais des films en parallèle où je voyais des gros films qui ont fait des bons résultats, mais Jeanne Dubarry, la première semaine, je crois qu'elle a supplanté pratiquement tous les films. Quoi. Ouais. Donc c'était quand même assez intéressant à observer. Quoi. C'est ça, Jeanne Dubarry, L'amour et les forêts, et le film Hawaï.
Ah oui, on en a parlé.
Qui seront proposés. Hein. On aura aussi ça sera vraiment début juin, on a toujours le coup de cœur surprise. Hein. Alors ça, c'est une opération qui a été montée par mes collègues de Artec. Hein. C'est-à-dire que vous venez découvrir un film, mais par contre, vous achetez un billet, il n'y a pas le titre dessus.
Ah oui, c'est la surprise, c'est comme le Kinder au chocolat. Ouais, quoi. Ouais.
C'était une avant-première surprise.
Ouais.
Donc on le découvre quand le rideau s'ouvre. Je trouve ça quand même assez sympa. Et c'est quand même une opération qui marche relativement bien.
Alors ça peut être des films récents, c'est
toujours une avant-première.
Ah, c'est
chaque fois, c'est une avant-première. Ouais. Oui, c'est des films qui n'ont pas été projetés.
D'accord.
Ouais. Donc je trouve ça quand même assez sympa de découvrir les films avant les autres. Donc voilà. Donc ça sera à mettre en place. Moi, je sais que je ne l'ai pas encore mis en place, le film. Dans tous les cas, même si je l'avais, j'en parlerai pas, tu penses bien.
Mais oui, c'est un secret.
Voilà.
On a aussi du ciné plein de limirettes. Alors ça, c'est pour les jeunes, hein, je crois.
Oui, c'est pour les tout-petits.
Voilà, ça, c'est des opérations un petit peu spéciales aussi que vous faites à la Brèche.
On le fait assez régulièrement aussi, oui. Ça, ce sont des petits films qui méritent d'être découverts. On en parle souvent, hein, tu sais, à chaque fois, je fais des fiches, toi, sur des petits films d'animation qui viennent parfois d'assez loin, hein, comme des pays de l'Est, la Corée, l'Ukraine... Et donc voilà, ça permet aussi d'amener des jeunes voir leur premier film au cinéma. Ce sont des films, comme je l'ai dit, qui sont quand même assez courts qui parlent à chaque fois. Il y a une très bonne morale derrière, tu vois. C'est toujours des histoires très sympas. C'est régulièrement, nous avons ce genre de film là, à la Brèche. On aura aussi, tant que j'y suis là, le dimanche 11 juin, on aura le film Miraculous. Donc ça sera en avant-première aussi, c'est un film d'animation, donc pareil pour les petits, d'1h45, hein, un film d'animation de Jérémy Zag, hein,
d'accord,
avec des super-héros. On aura aussi, tant que j'y pense, ça je crois que ça sera attendu, hein, on aura Transformers, Rise of the Beast, j'en avais parlé, ouais, je ferai une fiche un peu plus conséquente sur ce film-là bientôt, mais voilà, on a quand même des gros films qui arrivent, c'est quand même, c'est bien, parce qu'avant on n'avait pas ça, on n'avait pas accès à autant de sorties de films il y a quelques années, le mois de juin c'était le mois le plus creux qui soit, on va dire, de l'année, et les grosses sorties commençaient, on va dire, fin juin, début juillet, et là la tendance à... C'est un petit peu inversé. Et voilà, on arrive à avoir des gros films. Hein. Donc Transformers, il sera en sortie nationale. On aura aussi un autre film en sortie nationale, mais ça, c'est un peu pour les plus âgés. La comédie d'Isabelle Mergault avec Lambert Wilson, Sylvie Testu et Josiane Balasco. Donc Des Mains en Or.
Ah oui.
Des Mains en Or.
Bon, je vois la photo qui est dans le programme de la Brèche.
Voilà, ils vont parler donc c'est l'histoire de Philippe, qui est futur académicien et qui est un écrivain célèbre. Et sa vie serait un bonheur parfait s'il ne souffrait d'un terrible mal de dos qui empoisonne son existence. Tout le monde connaît ça.
Oui.
Lorsque Philippe rencontre l'incroyable Martha aux mains guérisseuses, ses douleurs de dos vont s'atténuer. Voilà, je pense que ça va être la rencontre de personnes que rien n'aurait rassemblé sans ce mal de dos.
Ah, le mal de dos.
Voilà, donc il sera.
C'est mal du siècle.
Exactement, oui, mais oui, parce que mais on a des existences qui sont relativement statiques maintenant.
Oui.
On n'est plus aussi, on n'a plus de travail physique. Alors évidemment, il en reste encore beaucoup. Hein, mais moi, je parle de tout ce qui travaille de bureau. Voilà, et puis on fait aussi, les gens font peut-être aussi beaucoup moins de sport. C'est ça rejaillit. Et puis aussi les soucis.
Ah oui,
il y a aussi les soucis qui donnent mal au dos. Ah ouais, chacun, si tu gardes des problèmes pendant un certain temps, oui, c'est ton corps qui va se dégrader, qui va s'exprimer de différentes manières. Il y en a, c'est le mal de tête, le dos, l'estomac, tout ce que tu veux, quoi. Donc oui.
Des mains en or, donc une comédie d'Isabelle Mergault. Mais on va écouter la bande-annonce, hein, histoire de se mettre un petit peu dans.
Oui, oui, allons-y.
Et ces chaussures, c'est des fauchons. Il faut pas de chaussures, des fauchons. Si. Ça va mieux?
Vous êtes qui, vous?
Martha. T'avais mal, je t'ai soigné. J'ai pris ton mal. Et il y en a des mal là-dedans.
Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux.
L'Académie française, qu'est-ce que ça représente pour vous? Une consécration?
T'écris quoi? Des romans, des trucs comme ça?
Nous ne ferons pas l'amour ce soir.
Ah ben là, j'y comptais pas, je suis crevé.
C'est le titre de mon premier roman. Nous ne ferons pas l'amour ce soir. Vous voulez pas fermer la fenêtre? On va attraper la mort.
C'est la vie qui t'attrape.
Ma femme doit se faire un sang d'encre.
François, monsieur.
C'est elle qui me soigne.
Elle est médecin?
Professeur en médecine.
Demain, je change ton traitement, tu vas essayer l'Arbonax 1000. Tu devrais mettre des chaussures qu'on enfile, sans lacets.
Mais je suis pas encore handicapé non plus.
En attendant, c'est moi qui fais les nœuds.
Une rebouteuse, c'est le divorce, là.
Guérisseuse, parce qu'on entend guéri.
Ah!
Vous êtes souffrant. Vous voulez que j'appelle madame?
Tout va bien, Gildas. Il faudrait bien un petit café, s'il vous plaît.
Il a souri.
Il a souri.
Ah bah t'as une mine, toi. Tu devrais écraser des marques un peu souvent.
Vous êtes vraiment incroyable.
En tout cas, l'Académie te réussit. Hein.
Et je me suis rarement senti aussi bien.
Martha!
Mais tu la connais?
Martha, attends!
Laisse-moi!
C'est pas un type bien.
Il s'intéresse à rien, à part ses bouquins.
T'as raison, le salopard. Je vais voir la mère! C'est quand même quand ce qu'on a les pieds dedans que c'est le mieux!
Je te dois tout. Tu m'as tellement donné.
C'est parce qu'ils attendent rien que les oiseaux ils chantent bien.
Voilà, des mains en or, on vous invite à aller voir ce beau rendez-vous avec le retour de Lambert Wilson, hein, toujours dans des rôles assez... C'est guindé.
Oui, il est toujours. Mais ouais, c'est ça. Mais en plus, oui, il voyait juste ce personnage-là. Ouais, effectivement, c'est une rencontre de deux personnages que tout oppose normalement dans la vie normale. Comme lui, il est académicien, et puis là, il est quand même plus manuel. Donc, non, c'est sympa, je trouve. Puis en plus, le retour de Josiane Balasko aussi.
Oui, absolument. Hein, qu'on a toujours tant de plaisir à retrouver sur les écrans, en tout cas.
Oui, oui, oui. C'est vrai que
Josiane Balasko. A vraiment du talent et mène donc une très très belle carrière aussi au cinéma et au théâtre, il faut le rappeler.
Oui, c'est vrai, oui. Effectivement, oui, elle fait beaucoup de théâtre, oui.
Dès maintenant, vous aurez la chance de voir ce film donc à la brèche. Alors, beaucoup de choses à voir en ce moment, Pascal. On rappelle qu'on peut retrouver les informations dans le petit fascicule qui est distribué un petit peu partout, avec les horaires en fin de... du fascicule qui nous donne les diffusions.
Voilà, tout le programme de la brèche de 15 jours. On l'a dit tous les 15 jours. Hein. Tous les 15 jours, donc le programme change. Et donc, oui, effectivement, il est distribué un peu partout.
Alors, on peut voir aussi certains rendez-vous en 3D. Je crois que La Petite Sirène, c'est toujours diffusé. On peut le voir en 3D actuellement.
On peut le voir en 3D, on peut le voir en 2D. L'autre film qui sera en 3D, ça sera Transformers. Transformers, ah oui. Hein, ils seront en 3D aussi. Hein. Il y aura quelques séances donc en 3D. Voilà, pour les amateurs, hein. Il y en a qui aiment bien. Ben. Je ne suis pas spécialement fan, mais voilà, ça marche assez. Ces séances fonctionnent assez bien. Quoi.
En tout cas, c'est noté, Pascal. On rappelle qu'on peut te retrouver également à la brèche régulièrement, hein, avec l'équipe.
Oui,
hein.
Et oui, c'est mon travail. À mon poste de combat, comme je dis.
Voilà, exactement. Et est-ce qu'on a, avant de nous quitter, est-ce qu'on a des événements un petit peu particuliers qui arriveraient dans le temps, dans l'été? Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu
l'été,
trop tôt.
Bah après, l'été, c'est consacré aux enfants. Après, tu sais, c'est les vacances, tout ça. Donc, on aura quand même beaucoup de programmes pour les petits, les et les ados, tout ça, c'est quand même c'est ça l'été ouais. la brèche, puis même au niveau national hein. donc voilà, il y aura plein de choses à découvrir hein. D'ici juin, juillet, août. Mais regarde, déjà on en a proposé pas mal hein, de films pour enfants, de films pour même pour les ados hein. Donc ouais, moi je dis qu'il y a du choix quand même hein.
Ouais, puis on disait il y a des productions, de grosses productions qui vont arriver fin juin, donc le nouveau dernier volet de Indiana Jones
oui, voilà. Qui sort le 28 juin oui.
Avec la célèbre musique de John Williams qu'on a écouté tout à l'heure en fond dans l'émission. John Williams qui a toujours accompagné
Harrison Ford
ouais. Hein, sur les films d'Indiana Jones, en tout cas. Ce qui est très important aussi, la musique, hein, dans les films. Hein.
Oh ben là, c'est quand même religieux, la musique d'Indiana Jones, oui, bien sûr. C'est, tout le monde la reconnaît.
Ouais.
Tout le monde la reconnaît. Parce qu'effectivement, tout le monde a vu le premier, je ne sais plus comment il s'appelait, le premier volet.
Le Temple Maudit, non, c'est pas ça. Non,
Moi, je ne sais plus.
Ouais. L'arche, je sais qu'il y avait
oui, l'arche d'alliance. Il y avait aussi un épisode avec les crânes de cristal, non ?
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est ça, ouais. Je sais plus combien. Bon, je ferai un papier plus conséquent quand il sortira. On parlera un petit peu de tout l'historique des Indiana Jones. Oui, effectivement, des films qui cartonnaient à chaque fois. Hein. À chaque fois, c'était une valeur sûre. Et puis après, c'est des films qui étaient quand même assez bien réalisés.
Il y avait des gros moyens.
Des gros moyens, bien sûr.
Bien sûr. Le tournage.
Mais là, il paraît qu'il y a des flashbacks, des choses comme ça, là, quelques hommages sur les anciens numéros. On va voir, ça sera à voir et à découvrir. Hein.
Eh bien, c'est noté, Pascal, on va se quitter. On arrive au terme de l'émission. Le temps passe vite, en tout cas. Voilà, donc beaucoup de rendez-vous sympas à découvrir cette semaine. Et on invite évidemment à venir faire un petit tour dans les salles de cinéma de Sainte-Foy-la-Grande. Trois salles, on le rappelle. Hein.
Trois salles.
Avec plein de films, plein de rendez-vous. Il y a la climatisation, on a tout.
Il y a tout ce qu'il faut.
Voilà. Et on est bien assis, donc, tu le disais.
On est très bien assis.
Pascal, je te laisse le mot de la fin pour conclure.
Eh bien, prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air, et bien, venez au ciné, venez découvrir et tout ce qu'on a à vous faire partager. Et bonne semaine à tous.
Voilà, et si vous passez un lundi, vous aurez peut-être un petit thé.
Un petit thé avec des gâteaux. Ah, il y a des gâteaux avec. Ah oui, c'est important quand même.
Pour les gourmands. Merci Pascal, à très vite.
Merci à toi Christophe, bonne semaine à tous. À très bientôt.